Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Campus Lorraine. Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Campus Lorraine. Je suis Loïc, je suis avec Agnès et ce soir, on est aux Eurocannes et on est avec Serge Bonzo.
Bozon. Oui, pas Bonzon, Bozon. Ah,
je me suis toujours trompé et avant je vous appelais même Serge Gonzo pour une raison que j'ignore. Donc bonsoir Serge Bozon.
Bonsoir.
Vous êtes là aux Eurocannes.
Oui.
C'est la première fois que vous couvrez le festival.
Ouais. Oui.
Oui. Et pourtant, vous êtes déjà venu à Belfort.
Oui, je suis souvent venu à Belfort. J'ai passé la musique plusieurs fois à la Poudrière. Mais pendant un festival qui s'appelle Entrevue, que vous connaissez peut-être, il y a un festival de cinéma qui a lieu tous les ans en fin novembre, début décembre. Il y a un très beau festival où j'avais un film qui s'appelait Mods qui a été découvert là, qui a eu un prix. C'est d'ailleurs à partir de ce festival-là.
En 2003, c'est ça ?
Ouais, c'est à partir de 2002. Le film est sorti en 2003.
Le prix Léo
Cher.
Léo
Cher. Un aide à la distribution. Et c'est à partir de ce festival, d'ailleurs, que j'ai commencé un peu à sortir de la mouise où j'étais, parce que j'avais fait un long métrage avant, L'Amitié, qui n'avait pas bien marché, en l'occasion du terme. Et c'est, on peut dire, Belfort qui m'a un peu lancé.
D'accord. Mais du coup, au niveau de la musique, ça fait combien de temps que vous
sélectionnez ?
Ouais.
Ça fait 25 ans à peu près.
25 ans ?
Ouais.
D'accord, parce que la plupart des gens en fait ne sont pas au courant que vous êtes aussi musicien à vos heures perdues.
Non, je suis pas musicien, attention, je passe juste des disques, je suis collectionneur. Oui. Mais n'importe qui peut faire ce que je fais, c'est juste passer les disques, il faut les avoir. Mais je mixe pas, au sens je fais pas de scratch, je fais pas d'effet, je fais pas de mass mashup, je fais pas d'électro, je veux dire, je touche pas les boucons, je passe les disques, quoi, voilà.
Ah, vous passez la musique que vous aimez, c'est ça?
Ouais, le principe c'est juste que je passe des disques qui sont rares, voilà, c'est tout quoi.
Collectionneur de tourne-disques alors?
Tourne-disque? Non,
de disque.
Sinon, c'est collectionneur de patine.
De vinyle.
Ouais, le collectionneur de disques, ouais, tout simplement. Tourne-disque. Mais il y a des gens qui collectionnent, mais en fait, il y a tout, de toute façon. Tout est collectionnable. Il y a des collectionneurs de patine, je connais d'ailleurs. Ouais, je collectionne les 45 tours, les 33 tours, tout ça, mais c'est pas parce que j'ai la collectionnite aiguë au départ, c'est juste parce que j'aimais bien la musique, ça. Puis je suis allé dans les soirées et je voyais que les sons que j'entendais, ça sonnait pas comme chez moi, disons. J'avais acheté des rééditions, des CD, des choses comme ça. Là, je parle de la fin des années 80 et début des années 90. Et je me suis demandé, on m'a expliqué que les originaux sonnaient un peu différemment, c'est vrai. Et j'en ai fait l'expérience chez moi, tout simplement. Et donc, c'est, voilà, moi je m'en fous d'avoir tous les pressages d'un disque, d'avoir le pressage japonais obscur. Il faut juste que j'ai un pressage original dont le son soit bon, mais qui soit par exemple anglais, français. Par exemple, c'est un disque anglais, je m'en fous d'avoir le pressage allemand, si le pressage allemand sonne mieux. Parce que par exemple, il y a des labels allemands comme Ixchaon, Platten, qui sont très forts. Il y a des Krashen qui sont très pleins. Enfin bon, je vais pas vraiment ça dedans, parce que tout le monde s'en fout, mais donc moi je recherche juste d'avoir un bon son. Et c'est pour ça que je me suis mis à acheter des 47 tours, parce que c'est vrai que le son est plus plein, plus rond, plus chaud en CD. C'est plus plat, plus crêteux, plus synthétique. Il n'y a pas cette espèce de chaleur organique. On a l'impression de, je sais pas, un truc très boisé, très acoustique. Mais encore une fois, c'est parce que j'écoute plutôt des trucs des années 50-60. Je suis sûr qu'un fan de Ken Dao, par exemple, c'est très bien Ken Dao. Mais est-ce qu'il y a une telle différence entre un 45 tours du milieu des années 80 et une réédition CD? Parce qu'à partir du moment où la production était devenue très synthétique, les instruments n'étaient plus tellement des instruments normaux, entre guillemets, ça c'était devenu des choses assez électroniques, etc. Je pense à ce moment-là, les différences entre les rééditions et les originaux commençaient à se tamiser. C'est surtout en gros pour les années 50-60 et 70 qu'on a une différence massive entre les originaux, surtout à l'époque où les CD étaient peut-être très mal remasterisés. Il faudrait voir maintenant s'il y a une nouvelle, j'ai même pas tenté de réécouter, si maintenant les derniers CD avec d'autres techniques de restauration sont plus fidèles ou pas. En tout cas, voilà. Moi et mes copains qui étaient. Comment on s'est rendu compte juste que le son était plus mieux, quoi. Déjà plus puissant, quoi. Et plus sanguin. Il y a un côté satnitouche dans le CD, il y a un côté froid. Et bon, ensuite le MP3, je connais pas très bien, je peux pas en parler. J'ai vu la différence, disons, entre le vinyle et le CD. Et MP3, je me suis même pas trop risqué, quoi.
D'accord. Vous vous penchez pas sur ce qui se fait, en termes de diffusion moderne, du coup,
non.
Pas le MP3 et ni ce qui est à venir. Non. Vous êtes,
Moi, je suis très réac. Pareil pour le cinéma, j'aime la pellicule, pas le numérique.
D'accord.
C'est pour des raisons pareil esthétiques, je trouve que c'est plus beau. Et je trouve que l'industrie du cinéma est en train de faire la même erreur que l'industrie du disque. Pour être simple, l'industrie du disque est passée au CD parce que ça arrangeait des intérêts financiers. Mais ils se sont tirés une balle dans le pied parce que qui va vouloir dépenser. Je sais pas, moi je parle en francs donc c'est pire pour vous, mais qui va vouloir dépenser, je sais plus combien ça coûte d'un CD, mais disons 15 euros. Pour un CD qui n'est pas beau comme objet, dont le son n'est pas génial, alors que les MP3 piratés sont gratuits. Je veux dire, la différence de qualité est trop faible. Mais alors qu'il y avait une vraie différence entre le vinyle et le MP3. Et je trouve que le cinéma fait la même erreur en étant passé aux projections numériques, au DCP. Ils encouragent le téléchargement illégal, parce que moi, un DCP, par exemple, j'aime bien voir des vieux films. Mais aller voir un vieux film en DCP, autant regarder un DVD. Je veux dire, c'est comme un DVD sur grand écran. C'est pareil, t'as besoin d'être devant un grand ordinateur, juste plus gros, quoi. Donc moi ça m'intéressait quand je retrouvais la pellicule, le battement, la chaleur, l'impression de le point qui se disparaît, le type de, le rapport au flou, parce que le numérique c'est beaucoup plus froid, tout est net, c'est comme la télé. Enfin bon, je vais pas lancer là-dedans, il y a mille différences entre le numérique et l'internet. Mais je trouve, en gros, l'industrie du cinéma fait la même erreur que l'industrie du disque, c'est-à-dire qu'ils encouragent en fait le téléchargement illégal en privilégiant des supports qui sont de la merde.
Voilà. Ok. Et qui sont vraiment dans une démarche pas forcément qualitative.
Non, ils le font dans une démarche commerciale. Parce que ça coûte beaucoup moins cher. Si vous voulez, avant, par exemple, pour passer un film, il fallait des bobines de pellicule. Il fallait 5 bobines, c'est très lourd. Il fallait les mettre dans un appareil. Voilà. Maintenant, il fallait que le projectionniste fait des études pour savoir comment mettre le truc. Maintenant, ça, c'est sur le cloud. Le projectionniste, ça peut être moi, il appuie sur un bouton. Et voilà, ça coûte plus rien. Faire un DCP, ça coûte rien. Une copie, ça coûte rien à faire. Alors que les copies cinéma, chaque copie est un objet physique, ça coûte de l'argent. Il fallait tirer la pellicule. Il y avait un montage négatif, c'est comme la photo, si vous voulez. C'est pour la réduction de coûts qu'ils ont fait ce choix. Ça réduit drastiquement les coûts pour la distribution.
Et si on fait un petit détour cinéma, là, ouais. Vous pensez par exemple que le numérique, en termes de mise en scène, ne peut vraiment rien apporter au cinéma? Il y a des plans qui sont aisément réalisables dans le numérique. Je pense par exemple à Zodiac, où il y a une scène filmée du dessus, comme ça, ouais. Du taxi.
Non, ce que ça apporte le numérique, encore une fois, c'est lié à des choses financières, mais qui ont un impact esthétique. C'est qu'au cinéma, vous savez, on fait des prises quand on fait un plan. On va tourner première prise, on fait le clap. Si par exemple l'acteur foire, on refait une prise, deuxième prise. Peut-être qu'on trouve qu'on peut améliorer un truc, troisième prise. Et donc en pellicule, à chaque fois que vous faites une prise, il va falloir la tirer la pellicule. Il va falloir quelqu'un en laboratoire, comme la photo, la développe. Okay. Et donc c'est de l'argent. Tandis qu'en numérique, vous passez une prise ou 100, c'est pareil. Ça ne coûte rien en fait, le fait d'une prise. Donc ça a fait que les tournages depuis le numérique, les nombres de prises se sont envolés et donc il y a tout un travail dont sont spécialisés des gens comme Mewen, Keshish, de faire des films où il y a des tonnes et tonnes d'heures de rush, où il y a une sorte d'immersion quasi documentaire, où on va faire 50 fois aux acteurs les choses, avec plusieurs caméras, une lumière au plafond pour pas qu'on soit gêné par les différents axes. Et donc ça induit une forme de réalisme immergé qui aurait été très 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 coûteux en 35. Et moi, comme moi, c'est pas le réalisme qui m'intéresse le plus au cinéma. Ça va même pas passionner. Mais c'est vrai que ça, à moins d'être très clair, on pouvait pas le faire en 35. Hein.
D'accord. Alors si on revient un peu sur la musique, bon, bien sûr vos influences on les connaît, enfin vos influences, on peut même pas parler d'influence parce que vous diffusez des morceaux que vous aimez. Donc on est bien dans les fin des années 70 et dans les années 80 principalement.
Non, moi je passe surtout des années 60, surtout de 65-67 et un petit peu des choses des années 50 et des années 70. Mais je parle très peu.
On est pas. Vous avez diffusé comment ça s'appelle des années 70
Dites-moi.
Ah zut.
Non mais pas de problème, j'ai diffusé quelques morceaux en effet punk des années 70, que je peux vous dire. J'ai diffusé les Mekons 32 Weeks. J'ai diffusé un morceau que j'aime beaucoup, qui s'appelle The Medium West Stadium de Desmond voilà. Bicycles. C'est 76.
Ah bah, c'est toutes mes excuses. Pour moi, c'était début des années 80.
Non.
J'ai un décalage horaire.
J'ai rien passé des années 80. J'ai passé ensuite Real Shocks de Swill Maps. C'est fin des 70, ça doit être 78 ça. J'ai passé TV Personalities Where's Bill Grundy Now, 78 aussi. C'est ce qu'on appelle le Punk Die pour Do It Yourself. C'est des groupes qui faisaient leur propre label, qui, par exemple, quand ils faisaient Bicycles, ils ne passaient qu'une face, il y avait une face du disque. La pochette était photocopiée pour casser les coups et pour. Ils ont lancé beaucoup l'idée de faire des disques. C'est les Buzzcocks qui avaient aussi lancé ça beaucoup avec leur tout premier EP, Spiral Scratch, il y a Boredom dedans. Les Buzzcocks, que vous connaissez peut-être, qui ont fait des succès ensuite, quand Howard DiVoto est parti et qui restait Pitcherlet. Donc bon, voilà, c'est tout un courant du punk anglais, un peu estudiantin, où il y a plus d'orgue que de guitare. C'est pas du tout du punk comme on associerait, je sais pas, aux Sex Pistols ou au Clash, où il n'y a pas le côté in the stade à Josh Strummer. Mais c'est un style que j'aime bien, un peu maigre aussi. Et voilà, donc j'ai passé pas mal de choses de ce genre ce soir. Hein. Et j'ai passé aussi du punk plus ordinaire, plus rock'n'roll, comme les Saints, 76, I'm Stranded, un des premiers morceaux de punk. 76, c'est la première année des morceaux de punk en Australie, ou par exemple en Angleterre, il y a New Rose de Damned, à San Francisco, il y a Crime. Enfin bon, je ne vais pas lancer là-dedans, mais il y a plusieurs villes dans plusieurs pays où en 76 il y a des single punk avant l'année qui est associée au punk et 77.
D'accord, et du coup, dans ce qui se fait actuellement dans la musique un peu plus moderne, vous écoutez rien du tout?
Non.
Et sur ce qu'on a ce soir dans la programmation des Europe, enfin sur les 4 jours,
ouais, mais je connais
l'élément. Il y a un groupe qui vous tend, qui vous.
J'ai écouté, si vous voulez, sur internet, Lemon Twigs là. J'ai regardé un concert sur la radio, la RKO, je sais pas quoi là. J'ai écouté aussi l'album. c'est pas mal, c'est très influencé par les années 60 aussi, hein, c'est très influencé par les Kings, les Beatles, c'est une espèce de pop fin 60, move, tout ça.
C'est ça.
Je trouve que c'est très bien, c'est assez propre. Ensuite, les voix, je les entends pas, je trouve un tout petit peu scolaire, et puis je trouve que c'est du revival, quoi. C'est pas mal, mais c'est...
Ça fait un peu remake, c'est ça le...
Mais je trouve que le rock est revival maintenant, en fait. Pour moi, okay. Le rock est revival maintenant.
Il n'y a plus de nouvelle créativité dans le rock, il n'y a plus de...
Non, et ce qu'il peut avoir, c'est du mixage d'influence. Quelqu'un va mixer un peu de grunge avec la new wave et avec, je sais pas, un fond de trip-hop, je sais pas, c'était possible de faire tous les échanges. Et j'ai l'impression que le rock appartient peut-être à la musique du passé, c'est peut-être moi qui suis tout simplement à la musique du passé, et parce que je suis vieux, j'ai 44 ans, donc voilà. Iggy Pop, je voyais quand j'avais 17 ans en concert,
là, on j'adorais ça, Pop en
je
fond,
sais,
hein.
J'adorais quand j'étais un gamin, je l'ai vu plein de fois en concert, je suis même allé voir au Zénith, je collectionnais, et j'ai ces 47 tours originaux, Search and Destroy, j'ai tous les 47 tours, j'ai No Fun en 47 tours, j'ai 1969 en 47 tours, j'ai les Stooges, un groupe que j'adore, que j'aime toujours autant, mais voilà, j'ai vu beaucoup Iggy Pop quand j'étais adolescent, mais c'est pareil, il a fait, ce qu'il a fait de bien, c'est arrêté en 74. Il y a personne qui va dire qu'Iggy Pop a fait des albums géniaux après. Tous les fans d'Iggy Pop, ils ont envie d'écouter I Wanna Be Your Dog, ils ont envie d'écouter No Fun, ils ont envie d'écouter Little Doll, ils ont envie d'écouter TVI, ils ont envie d'écouter éventuellement, je sais pas, des morceaux un peu plus tardifs comme I Got The Right, Give Me Some Skin, et voilà, c'est sur 6 ans. Dans le rock, c'est très rare les gens qui peuvent durer très longtemps. Il y a The Fall, il y a Daniel Johnston, il y a quelques exemples de gens qui ont une carrière sur 35 ans où ça baisse pas. Parce que bien sûr, les Stones, Iggy Pop, ils ont une carrière aussi longue, mais c'est comme ça. Il y a quelques exemples très rares, mais c'est des groupes à part. Daniel Johnston, si vous voulez, c'est de l'art brut, c'est autre chose. C'est comme Douanier Rousseau, je veux dire. Le rappeur à l'idée de vieillissement, c'est tellement de. Je dis pas que c'est asilaire, mais c'est très solitaire. Et The Fall, c'est tellement amené par Marquis Smith, c'est un truc un peu. Je sais pas comment dire, il y a une sorte de démarche qui est assez consciente d'elle-même, qui est très à part. C'est pas comme Iggy Pop, ce qu'il a fait à la fin des années 60, comme beaucoup de choses qui sont beaux dans le rock, c'est lié à des choses qui sont pas que de la volonté artistique, c'est des trucs de mode, des trucs de son de l'époque, des influences qui passent, qui, hop, qui divergent, hop, et puis on sait pas trop, ça disparaît très vite, quoi. Voilà. Mais bon, ouais, je connais, ouais, j'avais regardé aussi PNL sur internet, un article dans l'IB, j'avais écouté l'album.
C'est un tout autre genre là.
Oui, c'est du rap. Dans mon dernier film, il y a du rap. Il y a un morceau de rap original, fait pour le film, enregistré en direct, et dont j'ai écrit les paroles avec des rappeurs lyonnais qui ont beaucoup apporté, vraiment beaucoup apporté, en particulier Alexandre Ducrot. Donc voilà, le rap n'est pas un style que je connais très bien, mais ça m'intéresse, parce qu'en particulier, il y a un critique qui m'a fait connaître beaucoup de musique, qui s'appelle Johan Kugelberg, qui écrivait dans Ugly Things, par exemple, qui maintenant a un label et une maison d'édition qui s'appelle Bouhoret et qui est spécialiste du début du rap en 77-81. À l'époque, c'était sur cassette et c'est un peu comme le Die anglais, c'est un peu similaire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de groupes, c'est un peu autoproduit. Et dans le Die anglais, pareil, il y avait beaucoup de groupes qui faisaient que sur des cassettes. Par exemple, il y avait un label qui s'appelait Fuck Off Records où le principe, c'est qu'il enregistrait que sur des cassettes et des cassettes usagées qui récupéraient. Il y a plein de groupes qui ont fait des super chansons, mais je peux pas les passer parce que je peux pas passer des cassettes. Voilà.
Pourquoi pas, j'ai envie de dire, hein, mais bon.
Ouais, c'est un peu compliqué, là, déjà que c'est platine, faut demander. Mais des groupes comme Danny and the Dressmakers, Don't Make Another Bass Guitar, Mr. Record Maker, ou Eggs on Legs, des morceaux que j'adore, ils existent que sur cassette, sur le label Fuck Off Records.
Et donc, voilà. Faudrait peut-être montrer au public la cassette pour montrer la démarche que vous avez.
Mais ouais, mais si tu veux, comment tu cales les cassettes, comment tu fais les arrêts et tout, c'est.
Ah bah ça, pas... c'est votre métier, hein.
Mais ouais, mais en vinyle, c'est pratique, parce qu'il y a des platines qui sont faites pour ça, si vous voulez ce que je veux dire. Tandis qu'il n'y a pas de platine cassette pour DJ, à mon connaissance, parce qu'il n'y a pas de DJ de cassette.
Pas enfin,
tout
encore.
Est possible. Enfin, tout est possible, parce que c'est vrai qu'il y a un retour de la cassette, parce que c'est à la mode, il y a des labels comme Burger Records à Los Angeles qui ne sortent quasiment que des cassettes.
Il y a un retour du vinyle aussi.
Ouais, le vinyle, ça fait longtemps, mais même la cassette. Burger Records, qui est un label par ailleurs intéressant, qui font des compilations qui sont bien, qui est un label Los Angeles de garage actuel et pas seulement actuel, et ils sont à fond sur la cassette. Ouais. Enfin bon, là, on s'éloigne du sujet.
Bien sûr. Non, mais c'est pas dérangeant ça, par contre. Mais les influences, enfin les morceaux rock que vous aimez,
ouais.
Que vous diffusez lorsque. Vous faites des prestations comme celle-ci.
Ouais.
Vous n'êtes pas tenté de les intégrer à certains de vos films?
J'ai déjà fait.
Dans lequel alors?
Mods, par exemple.
Ah bah je ne l'ai pas vu.
Non,
bah, je
pas
me
grave,
suis arrêté, j'ai vu, le dernier que j'ai vu, c'était Tip Top.
Ouais, bah, c'est le dernier qui est sorti. Donc,
c'était 2013, non?
Voilà, et j'en ai fait un nouveau depuis, qui va sortir l'année prochaine. Il s'appelle Madame Hyde, qui va passer là au festival à Locarno. Dans Tip Top, il y a une musique de la fin des années 70, une musique turque. Volume TURL. Mais dans Mods, il y a pas mal de musique. Quoi. Il y a les Seeds, Faded Picture, c'est le garage de Los Angeles 67. Il y a I'm a Living Sickness, Calico Wall, c'est le garage de Minneapolis qu'on appelle l'acid punk, le garage psychédélique, mais très maladif, comme si c'était un truc de Lovecraft. Il y a Unrated Segment, c'est un groupe de Détroit, It's Gonna Rain, une balade très douce avec une voix toute égrillarde, toute maladive, toute tremblante. Il y a Phil and the Frantics, c'est un groupe de Phoenix en Arizona. I Must Run, qui est une sorte de pompage des zombies. I Must Move, mais sur un mode plus planant. Enfin bon, je vais pas vous dire tout ça, parce que c'est l'érudition, mais...
très riche musicalement, alors
voilà, c'est un film. Voilà, c'est un film où il y a pas mal de musique originale, et les chansons sont en entier, et il y a la danse sur ces chansons, et ces chansons-là sont dansées.
Ok.
C'est pas juste diffusé dans le film pour faire plaisir, c'est intégré à la fiction, c'est crucial. C'est pas la musique de film, c'est les scènes où il se passe des choses liées à la musique.
Ok, c'est une BO qui est intégrée à la mise en scène. Quoi.
Voilà, vraiment. Tout à fait, c'est intégré au récit. Voilà. Ouais. C'est des scènes de danse en fait. C'est un film comédie musicale et ça danse quand il y a ces morceaux-là.
Vous pouvez nous en dire un peu plus sur le synopsis ou c'est pas possible?
Oui, bien sûr, ouais, c'est, bien sûr. J'ai pas, y a pas de, le film a été fait en 2002, donc les intérêts financiers maintenant sont largement
loin, ouais. Loin.
Donc c'est simple, le principe c'est la chose suivante, on est dans un campus. Je sais bien que c'est plutôt américain que français, mais on imagine qu'on est en France, qu'il y a un campus. Dans ce campus, il y a une sorte de gourou qui a perdu son pouvoir, qui est alité. Vous voyez ce que je veux dire, il est au lit. Et comme il est malade, et donc la gouvernante du campus, très inquiète que le gourou, qui était un peu son chouchou, ait perdu non seulement sa présence, mais même sa voix, et ne dire plus rien, il est juste au lit, quoi, fait venir ses deux frères, qui sont des militaires, joués par moi, Guillaume Verdier, un acteur que j'aime beaucoup, pour essayer d'enquêter sur qu'est-ce qui a pu arriver à cette idole locale, à ce gourou du campus, et pour essayer de le guérir. Et il va être guéri à la fin, voilà, c'est ça l'histoire du film, c'est une sorte de guérison sévère. Et le gourou dont je parle, c'est Laurent Lacote, un acteur aussi que j'aime bien. Donc voilà, c'est ça le point de départ du film.
Il s'appellera ?
Le film s'appelle Mods.
Ok, on pourra aller voir Mods.
Il est à Belfort, c'est là que c'est ce film-là qui a eu un prix à Belfort, en 2002.
Ok, donc si vous nous écoutez...
Il existe en DVD, il avait été édité en DVD par Léo Cher. Et ouais, c'est un film que j'aime beaucoup, moi. C'est pas parce que je l'ai fait, je dirais, mais c'est vraiment un film que j'aime beaucoup.
Et musicalement parlant, vous avez des objectifs, des projets bientôt?
Des objectifs musicaux? Ben non, qu'est-ce que je prends comme objectif? Je ne suis pas musicien. Non, mes objectifs, c'est d'acheter des disques, de découvrir des disques bien, je continue à chercher des disques.
On peut vous écouter quelque part cette année, en 2017, vous avez d'autres dates?
Non, moi tous les ans, je fais pas plus que 6-7 fois DJ. C'est souvent lié à des festivals ou à des soirées à Paris. Non, des soirées liées à la musique 60s, pour les fans de musique 60s, si vous voulez. Voilà, ou bien ça va être des trucs un peu à part, comme Belfort, ou bien ce film Summer Camp, l'année dernière, par exemple, à Nantes. L'année d'avant aussi, j'avais été DJ, dans des bons lieux d'ailleurs, dans des belles salles. Mais voilà, c'est un peu comme ça, donc c'est un peu aléatoire. Je fais pas de festival à part ici, ça m'est jamais arrivé, je pense pas que ça arrivera. Donc, voilà.
Qu'est-ce que ça vous fait du coup d'être aux Eurocaines pour la première?
Moi, c'est très exotique pour moi, parce que même l'idée de passer du rock en plein air, c'est quelque chose de très étrange, parce que moi j'associe le rock à la notion de cave. Vous savez, les gens qui sont dans les caves, ce sont des zombies.
Oui.
Ce sont des gens qui sont maladifs, qui sont blancs, etc. Et se retrouver devant des gens en short, comme dans un truc de camping, et qui sont très en bonne santé, ce qui est bien, ce qui est très familial, comme à une foire, un peu comme dans un. Comme nous on appelait ça quand on allait au manège, là, quand on était jeunes. Ça me fait drôle, l'idée de passer en plein air, et pour moi c'est comme le cinéma en plein air, c'est quelque chose que j'arrive pas à m'y faire. À Le Carnot, il passe des films en plein air. Et moi je trouve que c'est pas bien pour le son, pour l'image, tout. On a envie d'être fermé dans une salle, d'être enfermé dans le noir. C'est crucial, le noir.
C'est une expérience différente. Oui.
Voilà, moi j'avoue que j'étais un peu dépaysé et peut-être même démuni, je l'avoue. J'étais un peu démuni, je me sentais. Je savais pas trop quoi faire. En plus, il y avait des soundchecks en même temps que je passais des disques. Il y avait des musiciens qui préparaient leurs concerts après parce que je fais trois sets entre trois groupes. Donc à chaque fois que je passais la musique, il y avait des gens qui, sur scène qui faisaient la balance.
Il y a peut-être une notion d'ambiance et de cadre convivial plus en plein air.
Voilà, ouais, mais c'est difficile parce que moi, quand je fais la musique qui est plutôt rêche, plus agressive, qui est plutôt méchante, un peu vue.
Vous n'êtes pas content quand les gens vous sourient, que vous faites de la musique, c'est ça?
Non, je voudrais qu'ils dansent, c'est pas qu'ils me sourient, je voudrais qu'ils dansent. C'est dur de faire danser en plein air.
C'est dur de faire danser en plein air, surtout aux heures auxquelles vous avez joué en fait.
En tout cas, moi j'ai pas réussi, il y en avait maximum 5 qui ont dansé, je crois. Voilà. D'habitude, dans la soirée, par exemple à Rotterdam, il y en avait quand même 200-300 qui avaient dansé. À Vancouver, j'en avais dansé une centaine. Enfin bon, je vais pas faire ma liste, mais ça m'est déjà arrivé d'en faire danser, mais alors là, c'était très dur. Hein. Non, et puis, je savais pas trop. J'ai passé les choses que j'aimais, mais. Puis comme je dis, en montant les soundchecks, j'ai même passé des morceaux dansables, des balades, des bizarretés, des morceaux novelty. Je me suis dit, ce que c'est novelty, c'est des morceaux comiques. Des morceaux que les gens sont écoutés pour faire rire. Et pas parce que les paroles sont drôles, mais parce que la manière de chanter est drôle. Donc la musique est drôle, comme par exemple Tiny Tim, qui est un artiste américain étrange, qui avait une voix suraiguë, qui pouvait prendre des inflexions très maniérées, une sorte de, comme une sorte de clown homosexuel. Et je ne dis pas qu'il était dans la vie, mais dans ce personnage de scène. Donc j'ai passé même voilà, des reprises par Tiny Tim, cette chanson folle. En fait, j'ai passé plein de curiosités. Et je pense que le public s'est dit pourquoi pas que c'était comme un fond en attendant les groupes.
Et du coup, ça sera une expérience à reproduire quand même, la musique en plein air, ou vous êtes vraiment pas conquis
Non, je sais pas.
C'est sceptique peut-être par rapport à cette idée?
Ben, je sais pas, il faudrait. En plus, c'est pas à moi de dire, c'est plus au public ou à ceux qui m'ont invité. Moi, je suis toujours prêt, d'un point de vue militant, à faire écouter la musique que j'aime parce que quand il y a des gens qui découvrent et qui sont enthousiastes, ça fait un bel effet. Il y a quand même un truc objectif dans le rock, au sens où, par exemple, là, je passais la musique. le premier groupe qui était après ce que je passais, il est venu me voir, le mec, il m'a dit c'est super. À un moment, c'était quoi je passais, je faisais Have Love With Trouble, l'original de Richard Berry. Il m'a fait une blague, il me disait, je pensais que c'était l'original, c'était des Black Keys, etc. Groupe d'après, à un moment, je passe The Medium West Stadium, The Vesicles, le mec il arrive, le manager, il dit c'est génial, c'est quoi, il va regarder le disque, c'est vraiment l'original. Donc j'ai marqué dans le rock, c'est pareil quand je suis au festival, que ce soit à Vancouver, ou même ça m'est arrivé à la Vienne, ça m'est arrivé à Buenos Aires, ça m'est arrivé au Chili, ça m'est arrivé au Mexico, c'est-à-dire dans le monde entier, où vous ayez, quand vous avez des vrais fans de rock, il y a un truc objectif, ils reconnaissent que les morceaux sont bien. Je peux dire, il y a un truc. Tu mets un morceau des Sonics, c'est un fan de rock, il va toujours être passionné, quoi. Et donc là, ça l'a fait, en tout cas avec ses musiciens, j'ai vu, ils sont allés regarder les disques, etc. Donc là-dessus, il y a un côté plaisant, il y a une sorte de côté un peu universel là-dessus, de reconnaissance. Par contre, pour le public, je suis pas sûr.
Vous êtes un passionné qui s'adresse à des passionnés, en fait.
Ouais, mais normalement, ce qui est beau, c'est que tout le monde peut être passionné. Sinon, on passe Madonna, Johnny et. Je sais pas quoi d'autre. Non, vous voyez ce que je veux dire, normalement tout le monde peut être passionné, c'est ça qui est le plaisir. C'est comme quand on fait des découvertes, par définition une découverte c'est qu'on connaissait pas. Et donc c'est qu'on a découvert quelque chose. C'est ça le rêve, c'est pas de passer la musique pour ceux qui connaissent déjà, mais pour ceux qui découvrent quoi, et que ça ferait un choc.
Voilà. Ok, et bien sur ces belles paroles, on va se quitter.
Ben, merci.
Merci beaucoup.
Je vous remercie du temps que vous avez voulu
nous
accorder.
Non, aucun problème.
Et je vous dis peut-être à bientôt, peut-être dans une salle de Paris.
Ben peut-être. Bon courage à vous deux alors.
Merci.